Pardon pour le retard. Tout de suite, c'est le journal. Marc Potdevin, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Au lendemain de la signature des accords de normalisation des relations entre Israël et deux pays arabes, de nouvelles roquettes ont été tirées vers l'État hébreu depuis la bande de Gaza. Nous retrouvons dans un instant notre correspondant à Jérusalem.
Ce n'est pas une surprise, Yoshihide Suga a été élu ce matin nouveau Premier ministre du Japon. Nous verrons que la composition de son gouvernement n'est pas plus surprenante.
La présidente de la Commission européenne prend des engagements face au réchauffement climatique et réclame une Union européenne de la santé. Nous analyserons son discours ce matin sur l'état de l'Union et nous y reviendrons avec notre invité, l'eurodéputé RN France Jamais.
Dans votre journal également, Marc Potdevin, en France, 81 établissements scolaires sont fermés pour cause de Covid-19, 53 de plus qu'il y a une dizaine de jours. Les syndicats s'inquiètent, le ministre de l'Éducation nationale, lui, relativise.
Et puis la liste des représentants de la nouvelle Assemblée générale de l'Académie des Césars fait polémique. Le cinéaste Roman Polanski, entre autres, en fait partie. Nous verrons que le futur conseil d'administration aura la possibilité de mettre un terme à cette polémique. À 12h55, la deuxième partie de La Grande Table, Olivia.
Y a-t-il une vie avant le fait divers? Il y croit dur comme fer, Jean-Xavier de Lestrade, notre invité. Il est réalisateur, scénariste, oscarisé pour son film Un coupable idéal. Il revient avec une mini-série diffusée sur France 2, Laetitia, où il raconte l'histoire de cette jeune fille derrière ou devant le fait divers, cette fameuse affaire de Pornic.
Merci et à tout à l'heure. Israël s'est donc réveillé ce matin sous une pluie de roquettes venues de la bande de Gaza. Une dizaine tirées après des frappes de l'État hébreu, frappent déjà en réponse à des tirs de roquettes en provenance de l'enclave palestinienne hier soir. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
À l'origine de ces échanges de tirs, la signature des accords de normalisation des relations entre Israël et deux pays arabes.
Exactement. Pour le Hamas, les tirs de roquettes sont, passez-moi l'expression, un mode de communication en tirant ses salves. Le mouvement au pouvoir dans la bande de Gaza veut dire qu'il n'est pas d'accord avec les accords de paix signés hier. Comme l'ensemble des factions palestiniennes, le Hamas estime que Bahreïn et les Émirats ont trahi les Palestiniens et donc il s'exprime par ses moyens belliqueux. Et hier soir donc, au moment même où les chaînes de télévision israéliennes étaient en édition spéciale accord de paix entre Washington, Tel Aviv, Dubaï et Manama, eh bien elles ont dû basculer en édition spéciale Roquette, notamment à Ashdod, ville israélienne où deux personnes ont été blessées par des éclats de verre et quatre autres hospitalisées en état de choc. Et forcément, ça a un peu gâché la soirée après cet événement historique. « Je ne suis pas surpris », déclare Benjamin Netanyahou, « les terroristes palestiniens veulent faire reculer la paix, ils n'y arriveront pas », fermez les guillemets. Hier à Washington, le premier ministre israélien n'a pas cité les Palestiniens, il n'a envisagé la paix qu'avec des États arabes, ce qui revient de fait à exclure les Palestiniens qui n'ont pas d'État. Il reste à savoir si les tirs de ces dernières heures auront été ponctuels ou si c'est le début d'une nouvelle phase de violence. On a du mal à croire à un conflit durable car un cessez-le-feu entre Hamas et Israël a été conclu il y a 18 jours et les deux négocient en ce moment des échanges de prisonniers sous médiation de l'Égypte.
Frédéric Mettezo, correspondant de France Culture à Jérusalem. Yoshihide Suga est depuis ce matin le nouveau Premier ministre du Japon. Son élection par le Parlement n'est pas une surprise puisque sa formation, le Parti libéral-démocrate et ses alliés y détiennent la majorité. Yoshihide Suga succède à Shinzo Abe qui a démissionné pour raison de santé et dont il était le disciple. Dans la foulée, la composition du nouveau gouvernement du Japon a été annoncée. La moitié de ses ministres étaient déjà dans le précédent, Karin Ishimura.
À la une ce mercredi, le trombinoscope du nouveau gouvernement Suga. Le premier ministre Yoshihide Suga a 71 ans. Le vice-premier ministre Taro Aso va fêter ses 80 printemps dimanche et la moyenne d'âge du nouveau gouvernement dépasse 60 ans. La raison de cette gérontocratie est certes en partie liée au vieillissement de la population, mais pas seulement, selon le politologue Tsuneo Watanabe.
C'est le système du parti qui fait que les jeunes ne peuvent pas devenir ministres, à quelques rares exceptions près pour les très populaires, comme le fils de l'ex-premier ministre Koizumi. Tant qu'il n'y aura pas d'alternance, cela ne changera pas.
Dans un pays où quelque 30% de la population a plus de 65 ans, la politique tend à favoriser les vieilles personnes plus politisée que les générations suivantes, elle-même en partie découragée de ne pas accéder à des fonctions élevées. Mais ces jeunes ne se rebellent pas face à la mainmise des hommes âgés ou très âgés sur le pouvoir, de peur d'être mal vus. Ce cercle vicieux constitue pourtant un vrai handicap quand il s'agit de penser une politique pour les jeunes, notamment les femmes, les encourager à travailler ou faire des enfants. C'est un handicap aussi en termes d'innovation, et le Japon est à la traîne désormais dans maints domaines, car cette domination des personnes âgées est vraie aussi dans les très grandes entreprises ou les institutions prestigieuses. Ce phénomène a même un nom, cela s'appelle Rogai, vieillesse nuisible.
Karine Nishimura. Un camouflet pour l'administration Trump, l'Organisation mondiale du commerce dénonce l'illégalité de taxes douanières infligées par les États-Unis à la Chine. Taxes sur 250 milliards de dollars de biens chinois, elles ont été infligées au tout début de la guerre commerciale entre les deux grandes puissances. Le gendarme du commerce mondial recommande à Washington de rendre ses mesures conformes à ses règles. Pékin, de son côté, se réjouit. Bertrand Galichet.
Dans ce match commercial à distance qui oppose les États-Unis et la Chine, l'arbitre vient de siffler la fin de la première mi-temps car la partie n'est pas terminée et Washington peut en théorie faire appel de cette décision qui lui impose de revoir ses droits de douane portant sur 250 milliards de dollars en produits et services chinois, des mesures prises par l'administration Trump qui avait très tôt accusé la Chine de pratiques commerciales malhonnêtes et de vol de propriété intellectuelle, sans oublier le volet politique des critiques américaines dénonçant la volonté hégémonique de Pékin. Mais selon l'OMC, les États-Unis n'ont pas fourni d'éléments de preuve ou d'explications suffisants pour justifier ces sanctions. En guise de réaction, Washington s'en prend à l'organisation elle-même, qualifiée de « totalement inadéquate » pour mettre fin aux pratiques commerciales de la Chine. Une situation assez inextricable, car l'appel devant l'OMC n'est plus opérationnel actuellement, faute de magistrats en nombre suffisant. En attendant, une cour d'appel temporaire a été mise en place entre la Chine et plusieurs autres pays, dont ceux de l'Union européenne, mais les États-Unis refusent d'y participer.
Bertrand Galichet, la présidente de la Commission européenne, elle, a prononcé ce matin son premier discours sur l'état de l'Union. Ursula von der Leyen compte la rendre plus résistante face aux mesures sanitaires et à la crise, aux menaces sanitaires et à la crise économique, également face au changement climatique. Angélique Bouin, la chef de la Commission, a fait des promesses d'ailleurs en la matière.
Une baisse de 55% de réduction, c'est la fourchette haute de ce qu'elle avait promis. Mais l'Europe doit devenir un leader mondial du climat, a expliqué la présidente, sans pour autant pénaliser les entreprises. Nous l'avons déjà prouvé, a-t-elle ajouté. Nos émissions ont baissé de 25% depuis 1990, avec 60% de croissance. Ursula von der Leyen annonce par ailleurs que 30% des 750 milliards d'euros du plan de relance européen seront levés via des obligations vertes.
Cet objectif pour 2030 est ambitieux, réalisable et bénéfique, et nous pouvons y arriver. On a désormais les technologies, l'expertise, les investissements, et on a la preuve désormais que ce qui est bon pour le climat est bon pour les entreprises et pour nous tous.
Après avoir rendu un hommage émouvant aux soignants, la présidente de la Commission a également promis aux élus une future Europe de la santé, avec une agence européenne puissante et des stocks stratégiques. Un discours fleuve, très applaudi quand elle a rappelé son attachement aux droits de l'homme et mis en garde la Chine, la Russie ou la Turquie. Ursula von der Leyen a enfin annoncé un vaste plan d'action contre le racisme dans l'Union.
Angélique Bouin, correspondante de France Culture à Bruxelles, avec nous pour revenir sur ce discours d'Ursula von der Leyen, l'eurodéputée Rassemblement National France Jamais. Bonjour.
Bonjour.
Et Antoine Maret du service politique de France Culture, bonjour.
Bonjour.
France Jamais, la présidente de la Commission, veut une Union européenne de la santé. Est-ce que c'est une idée que le Rassemblement national pourrait défendre ?
Non, enfin, je crois qu'on est encore dans des postures et des déclarations et des coups de menton. Je crois que l'Union européenne a largement montré son incapacité à gérer cette crise sanitaire. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait hier, ni aujourd'hui, on ne le fera sûrement pas demain. Évidemment que le Covid est une réalité et que nous sommes d'accord pour que toutes les mesures soient prises pour pouvoir enrayer cette crise, mais ce ne sont que des effets d'annonce. Et tout ça, évidemment, chaque fois se fait au travers d'un coup de milliards. Je vous rappelle quand même que depuis des décennies, on nous a imposé une politique d'austérité et que avec Madame von der Leyen, là, tout d'un coup, le pognon tombe du ciel. Il y en a à tout va, c'est un pognon de dingue. Mais le tout, c'est de savoir comment et à quoi cela va être consacré. Et
alors, là, qu'est-ce que l'Europe peut faire contre la Covid-19?
Qu'est-ce que l'Europe peut faire contre la Covid-19? Il n'y a pas grand-chose à faire, effectivement. Mais maintenant, en son temps, Madame von der Leyen aurait, par exemple, été très bien inspirée d'autoriser l'Europe à fermer ses frontières, le sans-frontiérisme. Ce dogmatisme systématique a amené aux excès et à la situation et au fiasco sanitaire dans lequel nous nous trouvons. Je rappelle au passage que j'entends Madame von der Leyen nous dire « Les Européens ont fait preuve de toutes leurs forces pendant la crise du Covid ». Mais moi, nous trouvons que l'Union européenne a fait la preuve de toute sa fragilité à travers ce fiasco sanitaire qui n'est en aucun cas de la responsabilité des Européens et des citoyens.
Donc la solution face à la Covid-19, c'est fermer les frontières.
C'était une solution qu'il fallait prendre en son temps. Mais on peut quand même aussi s'étonner que si dans d'autres pays, le test Covid, on peut avoir un résultat en quelques heures, en France par exemple, c'est 3 à 8 jours. C'est-à-dire que ça ne sert plus à rien. Quand au bout de 8 jours, vous dites à quelqu'un « Vous avez le Covid, isolez-vous », c'est fini, tout a été fait. C'est quand même incroyable de voir que nous avons été, la France et l'Union européenne aussi, à un niveau d'excellence dans plein de secteurs et où on voit cet effondrement. Mais vous savez, au-delà de tout
ça... Là, vous parlez de la France, pas de l'Europe.
Oui, oui. On parle de la santé, etc., du Covid. Il y a effectivement des mesures à prendre.
Lesquelles?
Lesquelles?
Au niveau européen.
Se laver les mains, effectivement, le port du masque en certaines occasions, le vaccin qui devrait arriver. Mais au-delà de tout ça.
Et le vaccin, alors justement,
je ne suis pas
est-ce
médecin.
Qu'il faut faire une politique européenne de recherche de vaccins au niveau international même, ou alors est-ce que chaque pays doit, chacun de son côté, chercher un vaccin?
Vous savez, Ariane est un exemple flagrant et éminent de ce que la coopération entre les États, des États européens a pu donner sans que on ait cette espèce de plateforme d'Union européenne qui aujourd'hui nous a amené à la situation où nous en sommes et qui globalement, et je crois que ça ne transparaît pas, mais il est évident, ce qui est inquiétant, je veux dire, dans le discours de Madame von der Leyen, c'est qu'on est dans le déni de la réalité. On a démontré notre impuissance, il y a une défiance des citoyens. Ça n'est pas avec des machins et avec des déclarations et des leçons que l'Union européenne donne aux citoyens à tour de bras qu'on va s'en sortir.
Et quand Ursula von der Leyen dit que le nationalisme vaccinal met des vies en danger et appelle à la coopération en matière de vaccins, vous êtes d'accord ou pas?
Mais non, mais écoutez, pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Ce que je voudrais quand même arriver à terminer mon propos parce que on va y arriver, hein, dans les mois qui arrivent, etc. On va surmonter cette crise et elle est en train, effectivement, petit à petit, on est en train de prendre chacun des dispositions. Mais je voudrais quand même revenir sur le bilan de cette crise Covid. Qui a fragilisé l'Union européenne certainement, qui a entraîné cette défiance, mais qui a démontré non seulement les limites du mondialisme que Madame von der Leyen ne veut pas remettre en question, parce qu'après il y a le Covid-19, il y aura le Covid-20, il y aura quoi d'autre? Et surtout, par exemple, cette politique des accords de libre-échange qui continue d'être engagée, alors que nous devrions nous recentrer sur du localisme, et surtout rappeler, c'est ça qui m'inquiète, voilà.
Alors, on va dire, pour terminer... Peut-être un mot sur le Rassemblement national, votre parti. Depuis 2 semaines, Marion Maréchal multiplie dans les médias les critiques à l'encontre du RN. Selon elle, le parti doit s'allier avec les déçus de LR. Alors, ouverture à droite plutôt que ni droite ni gauche de Marine Le Pen. Quelle est la bonne stratégie selon vous?
Je ne sais pas si c'est la bonne question, monsieur.
Alors, quelle est votre réponse aujourd'hui à cette mauvaise question?
Non. Ce que je voudrais vraiment que vos auditeurs entendent, c'est que le Covid a montré un petit peu les limites de ce globalisme ou du mondialisme, c'est vrai. On va vers une explosion des normes, on va vers une crispation, vers une défiance, et tout ça va se faire en éliminant la concurrence des petits métiers, des restaurateurs, des artisans, des commerçants. C'est une captation des multinationales sur les milliards qui vont être déversés et sur les marchés. C'est ça qui est très grave. Voyez,
sur le RN, vous ne souhaitez pas répondre.
Il y a la redistribution de la scène concurrentielle qui va être dramatique. Et je pense à nos territoires parce que je suis quand même une élue implantée dans le sud de la France. La désertification de nos territoires va être amplifiée par cette crise que nous avons traversée.
On aurait bien aimé vous entendre sur le RN, mais
bon. Et ce sont les sujets, je crois, qui devraient intéresser, qui intéressent.
Mais on en a parlé.
France jamais, eurodéputée Rassemblement National, pardon, merci à vous. Vous étiez interviewé également par Antoine Marette du service politique de France Culture. Le projet de loi prolongeant les mesures exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19 présenté ce matin en Conseil des ministres. Prolongation pour 6 mois. Ce texte permet d'encadrer les rassemblements, d'imposer des tests ou encore de fermer des établissements scolaires. À l'heure actuelle, il y en a 81 de fermés, 53 de plus qu'il y a une dizaine de jours. Chiffre dévoilé ce matin par Jean-Michel Blanquer. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Marc Bottevin.
Le ministre de l'Éducation qui prend bien soin de relativiser ces chiffres.
Oui, un peu plus de 2100 classes sont fermées en France pour cause de contamination au coronavirus. Malgré tout, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, se veut rassurant. Il a indiqué ce matin chez nos confrères d'LCI que les fermetures ne représentent que 0,13% des 60 000 établissements du pays. Un discours qui ne rassure pas et qui ne convainc pas les syndicats d'enseignants. D'une part, parce que la doctrine des agences régionales de santé varie en fonction des départements. Et il y a aussi la question de la traçabilité, selon Jean-Rémy Girard, le président du SNALC.
Comme tout le monde est censé porter le masque en collège et en lycée, a priori, il est supposé pas y avoir de cas contact, sauf dans les moments de repas, par exemple, en éducation physique et sportive. Mais dans la réalité, on sait très bien que des élèves peuvent baisser leur masque à certains moments, etc. Donc le traçage des cas contacts n'est pas du tout simple. Il y a aussi le fait que on a pas toujours de garantie que quand un parent remet son enfant à l'école, qu'il ait forcément été testé, ou parfois il y a certains parents qui peuvent être suspects et les enfants viennent à l'école quand même, etc. Donc on n'a pas moyen de tout vérifier en vrai.
Jean-Michel Blanquer qui a également rappelé ce matin que dans les classes où il y a des cas de contamination, ce n'est qu'à partir du troisième cas que la classe doit être fermée, ce qui n'empêche pas certains parents inquiets de ne plus envoyer leurs enfants dès le premier cas constaté, ce qui se traduit depuis la rentrée par un fort taux d'absentéisme, constatent les enseignants.
Hakim Kasmi pour France Culture, merci. La ministre du Travail et le président de la région Hauts-de-France dénoncent en chœur la décision de Bridgestone, le groupe japonais qui va fermer son usine de Béthune dans le Pas-de-Calais. Près de 900 employés y fabriquent des pneus pour voitures. Elisabeth Borne et Xavier Bertrand contestent la brutalité de cette décision, sa pertinence et ses fondements. Tous deux demandent des scénarios alternatifs. Une grève touche aujourd'hui les laboratoires Boiron, le numéro 1 mondial de l'homéopathie, qui prévoit de supprimer près de 650 postes en France. La direction explique cette décision par le déremboursement de l'homéopathie, décision prise par le gouvernement l'an dernier. Mais cette explication ne suffit pas à contenir la colère des 200 salariés qui ont manifesté ce matin devant le siège de l'entreprise à Messimy, près de Lyon. Mathilde Imberti.
Les salariés de toute la France ont convergé ce matin vers le siège social de Boiron. Vincent Mounier, le délégué syndical central Force Ouvrière.
Alors il y avait 27 établissements en France. Sur ces 27, il y a 12 sites qui ferment. Ça fait un peu plus de 400 personnes qui disparaissent. On a vraiment le sentiment qu'on est la variable d'ajustement d'un plan par anticipation. Quoi.
Le site de Pau, par exemple, va fermer 26 salariés licenciés, dont Valérie et Laure.
Extrêmement injuste, parce qu'on s'est énormément... On a énormément travaillé... contre le déremboursement, on s'est investi à 300%. Ce que l'on espérait n'est pas arrivé.
Alors qu'on est dans une entreprise avec une trésorerie très très saine et qu'aujourd'hui on a encore distribué des dividendes aux actionnaires.
La direction renvoie la balle au gouvernement, le directeur général délégué de Boiron, Jean-Christophe Bessa.
Toute la campagne de dénigrement qu'il y a eu contre l'homéopathie nous a déjà fait perdre plus de 20% de notre chiffre d'affaires en France, donc une activité qui baisse. Donc aujourd'hui, ce qui pourrait faire changer la hauteur du plan, c'est d'obtenir ce moratoire à 15%. Conserver 15% de remboursement, et pour le coup, l'activité baissera moins, sans doute, qu'avec un déremboursement total.
Jamais dans son histoire, le leader mondial de l'homéopathie n'a connu un tel mouvement social.
Mathilde Imberti, près de Lyon, pour France Culture. Le Conseil supérieur de la magistrature a tranché. Il estime qu'aucune pression du pouvoir exécutif n'a été exercée sur le PNF, le parquet national financier, dans l'enquête sur les époux Fillon. Cet organe indépendant a été saisi par Emmanuel Macron au mois de juin, après des déclarations de l'ancienne chef du PNF. Elles avaient ravivé les accusations d'instrumentalisation de la justice. Un rapport sur les différents usages du cannabis présenté en début d'après-midi à l'Assemblée, notamment sur son usage thérapeutique. Une expérimentation aurait dû débuter au début de ce mois-ci. Elle est reportée à l'an prochain, faute de décret permettant sa mise en œuvre. La mission d'information qui a planché sur ce rapport a notamment auditionné les associations de malades qui se soignent avec cette substance en France, parmi elles Principe Actif. Sa présidente, Fabienne Lopez, estime que la France est très en retard par rapport à d'autres pays.
Dans le Colorado, on peut trouver du cannabis pour se soigner de manière beaucoup moins compliquée. C'est les plus libéraux. Vous n'avez même pas besoin d'un dossier médical. En vrai, vous allez dans un dispensaire consacré à ça. Et en fonction de votre pathologie, vous expliquez ce que vous avez à des vendeurs qui sont formés. Et puis, on vous vend ce qui vous correspond. Après, il y a eu toute une chaîne comme ça de pays où c'est passé. Pas la France. Donc on voit bien qu'on est encore à la traîne, que c'est très compliqué en France d'arriver à se faire entendre, mais c'est aussi parce qu'on est un des derniers pays à avoir une loi aussi répressive sur le cannabis. Donc j'imagine que pour les politiques, c'est très compliqué de revenir en arrière et de dire, très franchement et honnêtement, dire bon, on s'est trompé, ça arrive à tout le monde, on a cru que c'était une drogue dangereuse, mais c'est quand même une drogue qui permet de soigner des gens, de soulager des effets secondaires, soulager des douleurs. Et voilà, on l'autorise, mais non, on n'en est pas là. C'est encore très compliqué.
Fabienne Lopez, la présidente de l'association Principe Actif. Cette association, dont l'UFC Que Choisir, lance une pétition pour demander une loi de moralisation du marketing alimentaire. Un texte pour mieux protéger les enfants, cible privilégiée de l'industrie agroalimentaire. Ces associations s'inquiètent d'un niveau alarmant de l'obésité infantile en France. Pour elles, il y a donc urgence à encadrer les publicités à destination des plus jeunes. Elles observent que 9 spots sur 10 concernent des aliments avec les pires Nutri-Score. La grande famille du cinéma se déchire autour cette fois-ci de la liste des représentants de la nouvelle Assemblée Générale de l'Académie des Césars. 182 représentants, dont Roman Polanski, le cinéaste qui a renoncé à se rendre à la dernière cérémonie sous la pression de féministes après de nouvelles accusations de viol. Cette Assemblée Générale renouvelée va élire à la fin du mois un nouveau conseil d'administration. Bonjour Anne Lamotte.
Bonjour Marc.
Un conseil d'administration qui aura le pouvoir d'éteindre cette polémique.
En effet, car les statuts de l'association qui gère l'Académie des Césars ne sont pas gravés dans le marbre. Vous l'avez dit, dans 2 semaines, le 29 septembre, la nouvelle Assemblée Générale va élire à son tour un nouveau conseil d'administration, 21 binômes, hommes-femmes. Et cette nouvelle gouvernance pourra alors tout à fait décider de rédiger de nouveaux statuts pour l'association, donc pour l'Académie des Césars. Je vous rappelle que ces statuts ont déjà été réformés le 9 juillet dernier, une réforme en profondeur, puisque finie la cooptation, les membres du conseil d'administration sont désormais élus, on l'a vu, en respectant la parité. Sauf que dans ces statuts du 9 juillet, on lit aussi, article 6, que l'association compte parmi ses membres, de fait, les professionnels du cinéma ayant reçu un Oscar, les anciens présidents de l'association et tout membre historique qui voudrait rester membre. C'est la raison pour laquelle, à moins qu'il n'ait été élu, on retrouve sur la liste de l'Assemblée Générale dévoilée hier les noms de Roman Polanski, oscarisé en 2003, ou Alain Terzian, ex-président, en plus d'une quinzaine d'autres membres historiques. Donc ces règles qui leur permettent de toujours faire partie de l'association, elles pourraient être abolies, encore faut-il encore une fois, que le conseil d'administration décide, après le 29 septembre, de rédiger de nouveaux statuts et qu'ils soient ensuite votés par l'Assemblée Générale. Plusieurs étapes, donc. Le comédien et metteur en scène Éric Métayer, qui a vite réagi hier sur les réseaux sociaux, voudrait bien ne pas avoir à en passer par là. C'est aux membres historiques que nous combattons, dit-il, de partir d'eux-mêmes.
Anne Lamotte, merci à vous. Le temps restera agréable cet après-midi sur une grande partie du pays. Un risque d'averse est toutefois à prévoir sur les reliefs pyrénéens et corses. Dans l'Est, le centre et les Alpes, ces averses pourront être localement orageuses. Il va faire encore chaud, 22 à 25 degrés près de la Manche, 25 à 31 du nord-ouest au nord du pays et le long des côtes méditerranéennes de 30 à 35 degrés sur les autres régions. Ce journal a été réalisé avec l'aide de Nicolas Paumé. Prochain rendez-vous avec la rédaction, ce sera le journal de 18h avec Aurélie Kiefer.